Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur le langage symbolique. Je rappelle que cette série d'émissions est faite à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain temps, mais toujours disponible en librairie. Donc, s'agissant des constructions symboliques qui constituent, à mon avis, le concept essentiel pour comprendre la culture générale, eh bien, il est évident qu'elle procède d'un langage particulier, que ce langage est distinct du langage logique, du langage scientifique. Nous avons commencé déjà à analyser les catégories de la logique symbolique. Nous avions vu que des oppositions logiques pouvaient être unies, justement, dans le cas d'un langage symbolique. Et nous avions opposé le contenu manifeste des textes avec le contenu latent. Hein. Alors, je vais prendre cette opposition, elle vient de Freud, hein, qui dit à propos du rêve que derrière précisément ce contenu manifeste de la production onirique, du rêve, il y a un contenu latent différent du premier qui souvent on peut le contredire, vous voyez. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple dans la Bible de l'histoire de Jonas. C'est un texte qui fait 4 pages, c'est tout, un tout petit texte. Il s'agit justement de la section des petits prophètes. Hein. Et à mon avis, ce texte est d'une extrême profondeur d'un point de vue symbolique. On nous dit que la parole de Dieu s'adresse à Jonas et lui dit d'aller prêcher contre les habitants de Ninive, dont les mœurs sont dissolues, hein, de façon à ce que ceux-ci, ces Ninivites, puissent se convertir. Mais Jonas s'enfuit dans la direction opposée, il s'embarque sur un bateau et il s'en va du côté du détroit de Gibraltar, des colonnes d'Hercule de l'époque, c'est-à-dire à l'exact opposé, justement, de la position géographique de Ninive, hein. Une fois dans le bateau, il y a une tempête qui est causée par Dieu qui se lève, mais Jonas est descendu dans la cale et il est endormi. Alors, est-ce qu'il s'endort malgré la tempête ou bien à cause de la tempête? Première question. Alors, les marins craignent le naufrage. Hein. Ils vont interroger Jonas parce que ces marins croient ce que l'on appelle en théologie la rétribution, c'est-à-dire que quand il se produit une catastrophe, un malheur, il y a forcément un coupable qui a attiré justement la colère de Dieu, Dieu ayant donc généré ce malheur. Vous avez ce réflexe de la théologie rétributive dans l'expression connue en français même, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça quand nous arrive un malheur ou une épreuve, hein? Alors les marins vont trouver Jonas et lui disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tempête s'est-elle élevée? Alors Jonas dit, c'est moi qui attire sur vous la tempête, la colère de Dieu, jetez-moi dans l'eau, hein? Alors ce que font les marins, ils jettent Jonas dans l'eau et là Jonas, précipité dans l'eau, est englouti par un gros poisson qui est envoyé par Dieu. Alors on dit que c'est souvent une baleine, mais on n'est pas sûr, mettons un gros poisson, hein. Mais est-ce que là il n'y a pas un désir secret de Jonas d'être avalé par ce gros poisson, d'aller dans, la Vulgate dit in utero piscis, dans l'antre, dans l'utérus, dans la matrice du poisson, vous voyez, hein. Est-ce que c'est pas un désir secret de Jonas? Souvent le destin n'est que l'intelligence des choses qui se plie à nos désirs les plus profonds, les plus sacrés, parfois les plus cachés, je dirais, les plus dissimulés, vous voyez, hein. Donc, je crois que ce poisson n'est pas forcément un châtiment, mais c'est l'objet justement de ce que recherche Jonas. Alors bien sûr, vous me direz qu'après, dans le chapitre 2, il y a 4 petits chapitres dans ce chapitre, dans le livre de Jonas. Jonas prie Dieu d'être délivré du gros poisson. Ses paroles sont reprises d'un psaume conventionnel et la délivrance se produit. Mais à mon avis, cette prière de Jonas ne va pas avec la logique de la situation de Jonas. Elle a été, à mon avis, interpolée, introduite par un scribe pieux pour augmenter le caractère édifiant du récit. Alors, vous voyez que comme on parle d'un complexe d'Œdipe, on peut parler aussi d'un complexe de Jonas. Jonas, en effet, fuit toujours sa vocation. La vocation, c'est un appel, ou au carré. Hein. Va à Ninive, prie contre elle. Hein. Voilà un appel. Eh bien, Jonas fuit. Il fuit sa vocation. La vocation de Jonas serait de s'intéresser aux pécheurs et de s'ouvrir à autrui. Mais au contraire, Jonas ne songe qu'à une chose, se replier sur lui-même et se clore sur des certitudes. Il pense en effet que, de toute façon, les pécheurs, les Ninivites, ne se convertiront pas. Mais toute l'histoire, bien sûr, est destinée à montrer qu'ils se trompent. Alors, le sommeil de Jonas dans le ventre du bateau, alors le ventre, c'est une structure matricielle aussi, hein, le ventre dans la cale, le ventre du bateau, hein, et puis dans le ventre du poisson, c'est un désir de régression à la vie fœtale, intra-utérine, et ce désir habite chacun d'entre nous. Ce désir est constitutif de tout être humain. À côté du désir de progression et d'ouverture vers autrui, nous avons ce désir régressif. Hein. Et alors vous voyez que l'interprétation de l'engloutissement dans le gros poisson comme châtiment de Dieu est loin d'épuiser l'ambivalence de la situation. Cette situation qu'on retrouve dans le conte de Collodi Pinocchio, c'est une attitude, une disposition de la psyché. En effet, justement, lorsque Geppetto et la marionnette sont engloutis par le gros poisson, c'est un remake, un palimpseste ou une réécriture de l'histoire de Jonas, hein, eh bien, Geppetto est bien dans le ventre de ce poisson, il est au chaud, il est bien, et il faut que ça soit la marionnette qui, lui donne l'élan pour sortir de cette matrice et pour affronter à nouveau la vie. Il y a en nous toujours un désir de blottissement. Hein. Par exemple, vous le voyez dans le conte de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Vendredi incarne le sauvage plein de vie, mais Robinson, eh bien, se blottit dans la grotte dont il ne veut pas sortir. Et par exemple, le succès d'un film comme Le Grand Bleu de Luc Besson vient d'une part, pour une grande part, de ce qu'il favorise, cette attitude de régression, d'engloutissement, mourir comme en apnée, sans respirer, au sein de la matrice. Eh bien, nous sommes tous un peu comme Jonas, hein, quand nous voyons dans les rues, par exemple, de la racaille, hein, prenez, je ne sais pas, moi, Montpellier, après 8h du soir, hein, la place de la Comédie et les hordes urbaines, hein, eh bien, que font les bons bourgeois? Ils s'abritent derrière leur digicode, hein, et donc on a une société duale, dans la rue sont les exclus, et puis dans les maisons bourgeoises sont les reclus, vous voyez, et alors ils veulent, ces bourgeois rentrent chez eux pour dormir, mourir en quelque sorte, hein, exactement comme fait Jonas, parce qu'ils disent de toute façon, il faudrait un bon coup de balai pour balayer toute cette racaille, et Jonas le dit bien, hein, je savais bien que Dieu pardonnerait aux Ninivites, et je voulais pas qu'il pardonne aux Ninivites, parce que les Ninivites sont corrompus. Donc Jonas refuse le pardon, refuse qu'il soit donné à quiconque la chance de se relever par le pardon. Et Dieu lui fait comprendre, puisque à un moment Jonas dit « Prends ma vie parce que la mort m'est préférable à la vie ». Donc c'est un désir de mourir finalement, il veut mourir. Hein. Et Dieu lui répond « Est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Mais Jonas ne dit pas, alors parfois il dit « oui, je fais bien de m'irriter ». Et à la fin, il ne dit rien. On ne sait pas s'il changera d'attitude. Mais Jonas est quelqu'un qui est psychorigide, hein, et qui trouve que Dieu est trop clément. Hein. Il ne faut pas leur pardonner, vous voyez. Hein. Donc en Jonas, les forces de mort, hein, triomphent des forces de vie. Les forces de mort, c'est Thanatos en grec, la mort. Hein, et les forces de vie, c'est Eros. Hein. Donc le désir de vivre, Eros, est renversé par Thanatos ou par ses forces de mort. Alors je vous signale que j'ai développé tout cela dans un livre qui est paru chez Golias, qui est toujours disponible, qui s'appelle « La source intérieure ». C'est un livre préfacé par André Gounel, et c'est un livre où j'ai montré justement ce qu'il peut en être de ce complexe de Jonas. Voilà, alors donc continuons notre réflexion justement sur la lecture symbolique. J'avais dit que la régression, le désir de régression à propos de l'histoire de Jonas, c'est quelque chose de négatif, mais qu'il faut lire par exemple le récit de Jonas au rebours, à l'envers de ce justement de la lecture habituelle, vous voyez. Alors beaucoup de récits symboliques attirent notre attention sur les dangers pour l'âme humaine de l'arrêt ou de la stase, sur des certitudes non remises en doute. J'ai parlé de psychorigidité à propos de Jonas. Et cet état même, la psychorigidité, l'arrêt, la stase, stasis en grec, c'est à faire beaucoup d'égards la définition de la névrose elle-même. Alors, qui s'arrête meurt, ou bien dort comme Jonas. Dormir, mourir, c'est la même chose. Alors là, le son de la vie, c'est exactement comme celle de la bicyclette. On évite de tomber qu'en avançant, en changeant de place. Il faut progresser. Alors, et non pas régresser. Donc il y a une régression pétrification. Prenons encore la Bible comme exemple. La femme de Lot veut regarder en arrière en s'enfuyant de Sodome qui est en flamme. Elle se retourne pour voir Sodome en flamme, et alors elle est changée en statue de sel, vous voyez. Bon, dans la mythologie grecque, vous avez la même chose. Vous avez le cas de Pirithoeus, qui est le compagnon de Thésée, et qui s'est trop attardé aux enfers, et puis après, il ne fut plus capable de remonter, sur la terre ferme, de revenir des enfers. Ou alors, tout le monde connaît l'histoire d'Orphée. Orphée peut aller récupérer Eurydice, sa femme morte, dans les enfers, à une condition, qu'il ne se retourne pas pour la voir. Eh bien, malheureusement, il était tellement impatient de voir Eurydice qu'il s'est retourné, et donc il l'a perdu définitivement. Il y a donc là ce que je pourrais appeler un complexe du rétroviseur. Il ne faut pas regarder en arrière si l'on veut justement assumer son destin d'être vivant. Vous avez la même chose dans l'évangile de Luc, où on lit par exemple « Quiconque regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu ». Et Jésus dit même « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un écho de l'histoire de Lot et de Sodome dans le texte évangélique chrétien. Donc il est toujours dangereux dans la vie d'être trop fixé sur le passé, de regarder en arrière. Supposons un homme qui soit inconsolable de la mort de sa femme. Eh bien, il ne vivrait que dans le souvenir de sa femme, et donc elle serait son vampire. La signification du vampirisme est là, dans le refus du devenir. C'est la mort dans la vie. Le vampire, Nosferatu, ça veut dire non encore mort. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours justement fixé sur ce passé. Dans le film de Juan Buñuel qui s'appelle Léonore, hein, d'après Ludwig von Tieck, vous avez ce thème justement du vampirisme, c'est-à-dire de la dévoration d'un être par le souvenir du passé. Il faut quand même faire le travail de deuil pour continuer de vivre, d'avancer. Hein. En Afrique, on dit qu'il faut tuer le mort, hein, le transformer en ancêtre. Hein. Il faut que le mort, justement, ne nous parasite plus. Hein. Le travail de deuil doit servir à cela. Et le film de Coppola, je crois, hein, qui s'appelle Dracula, hein, nous montre bien un homme qui, justement, vit toujours dans le souvenir de sa femme morte, dont il ne peut pas se consoler. Hein. Alors, le problème, c'est, vous pourriez me poser l'objection suivante. J'ai condamné la régression, hein, et pourquoi, par exemple, justement, l'Évangile dit-il qu'il faut devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire reculer, rétrograder, pour entrer dans le royaume? Eh bien, la clé est la suivante. Il y a deux régressions. Une régression négative, qui est très mauvaise et infantile, hein, qui est le propre de ceux qui regrettent toujours leur passé, hein, qui sont fixés névrotiquement sur leur passé. Et puis, il y a au contraire une régression positive qui consiste à se déprendre de toutes les convenances sociales pour devenir insouciant comme les petits-enfants, vous voyez. Donc, dans le premier cas, vous avez de l'infantilisme, et dans le deuxième cas, vous avez l'enfant spirituel qui sauve l'adulte du « à quoi bon hein, » où peut le mener, justement, son désenchantement. Exactement comme Pinocchio, la marionnette, sauve Geppetto, son père, hein, en le projetant à nouveau dans la vie. Donc, ne confondez pas ces deux régressions. Hein. Une régression négative, qui est très mauvaise, et une régression, alors, volontaire, positive, devenez comme des petits-enfants. C'est pour cela que Jésus, à la fois, condamne la régression négative, et puis, nous dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Vous voyez donc qu'il faut interpréter symboliquement des textes ou des récits, même quand ils sont étrangers aux symboles. Je prends par exemple le début du procès de Kafka. Hein. « Sans avoir rien fait de mal, Joseph K. fut arrêté un matin. » Alors pourquoi ce mot « arrêté » signifierait simplement, littéralement, une arrestation hein, des policiers qui viennent s'emparer de lui hein. Je pense que ce mot « arrêté » pourrait signifier aussi autre chose, une stase ou une névrose. Hein. Joseph K. serait arrêté dans son développement, exactement comme Jonas. Et d'ailleurs, on voit dans tout le roman qu'il a des difficultés relationnelles, qu'il a du mal à s'ouvrir aux autres, qu'il survalorise la loi, la morale, le désir de justification, qui sont des marques de rigidité, signe d'un manque certain de plasticité, vous voyez, hein. Donc, névrose obsessionnelle, qui est celle de Joseph K. Et un beau matin, Joseph K. s'est trouvé bloqué, cloué sur place, psychologiquement. Et tout cela existe sans doute à côté du récit de son arrestation. Et c'est ainsi que Eric Fromm, dans un livre essentiel, Le langage oublié, que vous trouvez dans la petite bibliothèque Payot, interprète l'histoire de Joseph K. Donc vous voyez, sans avoir rien fait de mal, Joseph K. fut arrêté un matin, on peut comprendre. Il a été bloqué, il s'est trouvé bloqué. Alors bien sûr, l'interprétation par l'arrestation est vraie aussi. Donc le texte serait allégorique plutôt que symbolique, puisqu'il aurait deux sens. Hein. Un sens obvie, un sens manifeste, et puis un sens latent ou un sens symbolique. Mais une trop grande fidélité au texte littéral est toujours source d'erreur. Il faut lire à la fois littéralement et dans tous les sens, comme le disait Rimbaud, hein, et il faut avoir le courage d'inventer. Alors, la lecture doit être inventive. Hein. Pour Paul Valéry, Valéry disait « il n'y a pas de vrai sens d'un texte hein. ». Donc, dire qu'il n'y a de vérité textuelle ou morale qu'inventée et de circonstance, comme disaient les sophistes de l'ancienne Grèce et les casuistes du XVIIe siècle, c'est aujourd'hui souvent admis. Hein. Alors, bien sûr, il y a des dangers à une lecture trop inventive des textes. Hein. Ainsi, Pascal a reproché aux jésuites, dans ses provinciales, de faire dire aux textes sacrés ce qu'ils ne contenaient pas. Et pour Pascal, le regard humain devait se briser et s'anéantir devant la vérité littérale du texte. Pascal a dénoncé des abus. Mais pour les jésuites, au contraire, il n'y avait pas de vérité absolue du texte. L'horizon mental du récepteur et l'histoire humaine tout entière ont été réintégrés dans la construction du sens. Et aujourd'hui, on voit bien que les textes et les œuvres en général sont devenus des métaphores infinies. Bien, alors cette attitude, elle est très moderne. Elle correspond à toutes les recherches qui tendent à montrer que le sens d'un texte, d'une image, d'une production quelconque de l'esprit se construit par la réception, par l'interprétation, et donc varie dans l'histoire. Je pense aux travaux, par exemple, de Yaus dans « Pour une esthétique de la réception », Yaus, J-A-U-2-S, au travail d'Umberto Eco dans « L'œuvre ouverte », ou bien dans « Lector in fabula », le lecteur dans l'histoire. Et le sous-titre de ce livre, c'est « La coopération interprétative dans les textes narratifs », etc., etc. Et un homme comme Borges, par exemple, dans Pierre Ménard, auteur du Quichotte, qui se trouve dans Fiction, montre que si je recopie aujourd'hui le Don Quichotte de Cervantes, je fais une œuvre totalement nouvelle, puisque le sens de chaque mot a changé depuis l'époque de Cervantes, vous voyez. Alors le sens désormais ne connaît plus de bornes. La prolifération du symbole et la symbolisation en général ont été, on vient de le voir, favorisées par l'attitude des jésuites, contre celle des littéralistes, dans la foulée de Pascal. Donc la lecture symbolique, c'est une lecture moderne, et donc elle interprète tous les récits par voie d'intériorisation et par amplification maximale des sens et des résonances de l'œuvre, par la symbolisation et par l'appel à l'imaginaire du lecteur. Et cette attitude, elle est, si on la met en perspective historique, on s'aperçoit qu'elle arrive surtout dans les époques où la foi, littérale, se fragilise. Prenons par exemple le cas de la création du monde. Telle qu'elle a été rapportée dans la Genèse, pour nous, maintenant, à l'époque moderne, elle est symbolique. Par exemple, on peut y voir comment, à partir d'un chaos initial, l'esprit humain met de l'ordre et projette sur la ténèbre, justement, la lumière ou la clarté intellectuelle. N'oubliez pas que le fiat lux de la Genèse, que la lumière soit, montre qu'il s'agit d'une lumière mentale, d'une lumière intellectuelle. Si c'était la lumière visible dont on voit l'origine, vous auriez pas lux, vous auriez lumen. Lumen, c'est une lumière dont on voit ce qu'il a créé, tandis que lux est une lumière dont on ne comprend pas, dont on ne voit pas l'origine. Et d'ailleurs, ce qui le montre dans la Genèse, c'est que le soleil et la lune, qui sont le grand et le petit luminaire, ne sont créés que bien après. Cela, ce sont des lumina, si vous voulez, c'est-à-dire des lampadaires en quelque sorte. Bon, alors aujourd'hui, nous voyons la Genèse comme la mise en ordre d'un chaos. Ce n'est pas la création d'un monde, mais l'organisation d'un monde. Un peu comme dans la théogonie d'Hésiode, il y avait le chaos et puis après, l'esprit a mis de l'ordre. Mais on n'a pas toujours considéré que cela était vrai. Par exemple, on a condamné Galilée pour avoir suggéré cela après Copernic, ou au moins avoir permis de le penser. Et puis on a mis Darwin à l'index, dont la pensée allait dans le même sens. Donc aux époques de grande foi, les textes sacrés ne sont pas forcément des vérités symboliques, mais sont des vérités de fait. Je fais une petite réserve. Peut-être ces vérités sont devenues des vérités de fait après les hésitations du tout début. Vous voyez, alors là, je complexifie mon discours, mais si vous prenez par exemple un homme comme Philon d'Alexandrie, eh bien, il interprétait très tôt toute la Bible juive dans un sens symbolique, de façon symbolique. Bon, mais après a triomphé la vision littérale des choses, par exemple, un homme comme Claudel ne croyait pas au darwinisme, puisque regardant les choses créées, il les trouvait si belles qu'il ne pensait pas qu'elles aient pu changer, qu'elles aient pu être différentes. honte de ce qu'il avait sous les yeux. Et puis vous avez des gens, peut-être aux États-Unis, par exemple, des créationnistes, qui voient bien la contradiction entre la Genèse et Darwin, mais ils nient que Darwin ait raison, vous voyez. Affirmer que l'idée de création du monde ex nihilo, à partir de rien, est celle de la fixité des espèces, évidemment, par rapport à l'évolution, ça n'a aucun sens. Ou finalement, le sens est simplement symbolique, et le texte en est fragilisé. Mais je répète exactement ce que j'ai dit à l'instant, parce que c'est quelque chose à quoi on ne pense pas. Peut-être que dans les tout premiers temps, il y a eu des esprits qui ont interprété symboliquement, mais après, si vous voulez, ce qui s'est imposé, c'est la vision littérale. Alors aujourd'hui, à l'époque moderne, on symbolise à nouveau. Alors peut-être cette évolution vers la symbolisation est-elle fatale en des époques qui sont mûrissantes ou vieillies, la symbolisation maximale des choses, l'interprétation sur le plan du sujet, à mon avis, va assez avec un agnosticisme de l'esprit. Et aujourd'hui, l'homme cherche à l'intérieur de lui-même un sens dont il sait bien qu'il provient de ses propres profondeurs, de lui-même. Regardez ce que dit Gide dans les nourritures terrestres. Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui chercherait pour le guider une lumière qu'il tiendrait dans sa main. Vous voyez, ou encore, voyez ce que dit Breton dans Nadja. Fixant un point brillant que je sais être dans mon œil et qui m'épargne de me heurter au ballot de la nuit. Vous voyez. Gide dit de même dans les nourritures, les sources seront ou les feront couler nos désirs. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'un symbole est moins puissant si on le découvre en soi-même que si on le cherche hors de soi, dans une vérité de catéchisme qui sera assénée de bas en haut, catéchène, par l'institution, par exemple, qui nous forcera à raisonner avec un e accent aigu et kein un écho, plutôt que de raisonner avec un ai, vous voyez. Mais là aussi, vous voyez, tout est complexe, tout est complexe. Puisque cette idée d'une intériorité des choses se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17 et au verset 21. On lit en effet, le royaume est à l'intérieur de vous, entos imon. Et dans la Vulgate, qui traduit très bien, intra vos est regnum dei, le royaume est à l'intérieur. Entos et intra, en grec et en latin, ne signifie que l'intériorité. Alors, on traduit évidemment souvent, le royaume est parmi vous, mais au mépris de ce que dit le texte, philologiquement parlant. L'orthodoxie a raison de parler de l'intériorité, toujours. Mais chez nous, on a parfois des traductions absolument faussées. Si vous voulez savoir justement si votre Bible est fidèle au texte grec, regardez toujours le test à faire, c'est de l'ouvrir à Luc 17, 21, verset 21 du chapitre 17. Vous verrez si vous avez le royaume est parmi vous, vous voyez qu'il y a un faux sens ou un contresens volontaire, à mon avis un contresens. Et la Tobe met en note, on traduit parfois en vous ou à l'intérieur de vous, mais cette traduction a le tort de faire du royaume une réalité intime et privée. Donc vous voyez que quand le texte gêne, on va le changer. Bon, alors, cette intériorité est très intéressante. Lucrèce disait de même dans le monde antique que l'enfer n'existait pas littéralement, mais qu'il était en nous-mêmes, comme un symbole. Voici ce qu'il dit dans le De Natura Rerum, au chant 3, au vers 1023, « Hic acerusia fit stultorum denique vita ». Enfin, c'est ici-bas que la vie des sots devient un véritable enfer, vous voyez. Donc, Lucrèce pensait que les châtiments divins étaient au fond de nous, et que finalement n'étaient que des allégories ou des symboles de choses que nous vivons dans nos vies. Mais si l'enfer existe autrement, s'il existe en nous, il n'en existe pas moins. Il y a deux beaux vers de Malherbe, magnifiques, Et si l'enfer est fable au centre de la terre, il est vrai dans mon sein. Voyez par exemple le soleil. Le soleil a d'abord été Dieu chez les Égyptiens, chez les Incas, puis il a été l'attribut d'un dieu, il a été le char d'Apollon chez les Grecs. Mais aujourd'hui, il est soleil intérieur, il est chaleur de notre cœur, hein, comme le dit Francis Ponge dans le soleil placé en abîme dans son recueil pièces. Voici ce que dit Ponge. Sa racine est en nos cœurs, la racine de ce qui nous éblouit est en nos cœurs, vous voyez. Donc les dieux ne meurent pas, ils ressuscitent sans leur divinité. Vénus, par exemple, va ressusciter chez Freud, hein, sous le nom de libido, la pulsion sexuelle. Mars, le dieu de la guerre, Arès en grec, hein, va ressusciter chez Adler, hein, comme pulsion d'agressivité. Le dieu de colère des psaumes renaît dans la figure ogre, dans la lettre au père de Kafka. « Je te déchirerai comme un poisson », vous voyez. On pense évidemment à la parole tragique « Il est terrible de tomber entre les mains du dieu vivant ». Donc, vous voyez que, finalement, c'est en soi-même qu'on retrouve l'image de ces anciennes croyances, une image, une représentation symbolique quelconque, tire d'abord leur poids de la tradition, de la culture, hein, et puis, et de l'enseignement, des conditionnements de l'éducation. Et puis, elles vont s'intérioriser et devenir objet de bildung, de formation de soi par soi. Voilà, eh bien, je m'arrête ici. Nous continuerons et nous terminerons ce chapitre sur le langage symbolique lors de la prochaine rencontre. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.